Il y a un an, le Comité du patrimoine mondial réuni à Saint-Pétersbourg en Russie a fait entrer à l'unanimité le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sont notamment inclus dans les sites pris en compte les paysages et ensembles miniers d'Auchy-les-Mines à Lens, incluant la gare de Douvrin et le puits de la fosse 6 d'Aisne-lès-Labassée. C'est pour mieux faire connaître ce patrimoine que la communauté de communes Artois-Com a organisé récemment une animation sur le sentier cavalier qui relie ces différents lieux. Nous vous invitons à revivre cette promenade bucolique.
Donc Anne Moitel, chargée de la valorisation du patrimoine à l'office de tourisme de Béthune-Bruay. Donc ces visites, notamment cette visite, cette balade lecture sur le long de la voie ferrée de Douvrin, a été créée notamment pour marquer l'anniversaire du classement UNESCO du bassin minier. Donc c'est une belle entrée en matière parce que tout l'été, nous allons retrouver en fait des randonnées patrimoine de juillet jusqu'à fin septembre sur différentes villes qui ont du patrimoine inscrit au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notamment, je pense aux villes d'Haïcourt, je pense aux villes de Barlin, d'Auchy-les-Mines, Vermel, Gonnet aussi, Marle-les-Mines, qui sont mises à l'honneur durant cet été pour rappeler et marquer le fait que ce patrimoine minier a aujourd'hui une grande importance au niveau de son histoire et de son patrimoine bâti et paysager également.
Donc effectivement, la maison que vous avez derrière vous, c'est la maison du garde-barrière. Et ce garde-barrière, c'était celui qui s'occupait de la ligne de chemin de fer qui passait par ici. Hein. Là, nous allons vraiment resuivre cette ligne de chemin de fer qui allait de Violaine-Labassée jusqu'à la gare de Lens, la gare Sainte-Élisabeth. Peut-être certains connaissent encore la gare Sainte-Élisabeth qui est exactement dans le même style architectural, hein, d'ailleurs que la gare que nous avons encore ici à Douvrin. Donc vous voyez que la petite maison du garde-barrière, c'est une petite maison assez coquette qui a été reconstruite juste après la Première Guerre mondiale. C'était une maison qui était gratuitement mise à la disposition du garde-barrière qui était employé par la compagnie des mines de Lens et donc qui avait fonction d'entretenir les voies et également de faire l'aiguillage puisque c'est une ligne qui n'a jamais été électrifiée, donc il fallait s'occuper de l'aiguillage manuellement. Donc voilà pour cela. Alors le transport des voyageurs a arrêté à la fin des années 50 et le transport des marchandises, lui, a continué encore jusqu'à la fin des années 70. Donc ce sont des lignes qu'on a continué à utiliser encore plusieurs années. Voilà, donc on va reprendre notre petit parcours. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, ici on était sous occupation allemande, donc ça a été intensément bombardé et l'ensemble de la compagnie des mines de Lens a été réquisitionné pour produire du charbon pour l'occupant. Après la guerre, eh bien, il a fallu reconstruire les bâtiments et ça a été une politique de reconstruction où on a eu un souci esthétique des bâtiments. Et donc cette gare est un bon témoignage du souci esthétique d'alors. C'était le début de la période des cités jardins. je ne sais pas si vous connaissez la cité Saint-Élie, qui est exactement dans le même style, donc qui allie de la brique avec des pavements en ciment, avec une structure en béton armé. Donc c'est assez caractéristique à la fois du style régionaliste, puisqu'on voit les colombages qui sont là à poser simplement en ciment, c'est un décor de ciment, et puis le toit qui également reprend les caractéristiques du style régionaliste. Donc comment ça fonctionnait? Ben, en fait, le bâtiment central, c'était la gare proprement dite, avec les trois grandes portes, avec des grands arcs en plein cintre, et puis des clés de voûte qui servaient pour l'entrée et la sortie des voyageurs. Et de part et d'autre, les deux autres corps de bâtiment, c'était d'une part pour le chef de gare, donc qui logeait sur place, et puis d'autre part pour son aide. Donc ça faisait deux familles plus exactement, qui logeaient ici à demeure, et là aussi des personnes qui étaient employées par la Compagnie des Mines de Lens, puisque tout appartenait à la Compagnie des Mines de Lens. C'est seulement à la fin des années 1950 que ça a été racheté par la SNCF, et que les dernières années ont été exploitées par la SNCF. Donc jusqu'en 57-59, parce que j'ai trouvé les deux dates, c'était le transport des voyageurs, et puis ensuite ça a été quelques années uniquement le transport des marchandises. Alors transport des voyageurs, il y avait notamment les gens qui allaient au lycée à Lens, et donc ils prenaient tous les jours le train pour aller au lycée, pour en revenir. Et puis il y avait, quand il y avait certaines occasions, on allait notamment au match de foot par le train, puisque à l'époque on avait surtout des vélos, et puis quand il fallait aller jusqu'à Lens, on prenait tout simplement le train. Donc c'était un train qui était quand même bien emprunté, donc 4 allers-retours par jour, et ça prenait à peu près une demi-heure pour aller jusqu'à Lens. J'ai retrouvé les horaires, j'ai essayé de calculer, c'est ça, ça faisait un petit peu moins d'une demi-heure pour aller jusqu'à Lens. Et puis sinon, pour ce qui est des marchandises, donc j'ai parlé du charbon qui était transporté ici par les trains, mais c'était au-delà, par exemple tous les commerçants de Douvrin, ils se faisaient livrer par le train, donc c'était les marchandises au sens large qui étaient transportées par cette voie ferrée.
Bon, je me présente, je m'appelle Delacroix-Valentin, je suis d'Ouvrinois de souche. D'après nos arbres généalogiques, on remonte en 1620 en habitant à Douvrin.
Donc ce chemin cavalier que l'on pratique là en ce moment, ça représente quoi pour vous?
C'était simplement l'unique passage pour aller dans d'autres communes avoisinantes, car bien avant la guerre, pour aller se rendre à Vingles, il fallait qu'on aille à Ulu. Entre Douvrin et Ulu, c'était inondé. Donc on ne pouvait pas aller à Vingles comme on y va aujourd'hui. Donc nos grands-grands-parents étaient obligés de passer par le village d'Ulu et revenir sur Vingles, ou alors on devait passer avec une barque.
Oui, donc Douvrin, c'était une ville d'eau alors il y a très longtemps.
Oui, dans très longtemps, c'était Douvrinde. C'était considéré comme petite maison sur pilotis. Donc, on avait, dans le temps, on remonte, nous, comme en 1600, même en 1200, on arrive à remonter très très loin. Et on s'apercevait que Douvrin, c'était vraiment marécageux. Et c'était les tourbières. C'est ce qui faisait vivre la ville de Douvrin.
Donc chauffé à la tourbe, après au charbon.
Eh oui, chauffé à la tourbe, et après, quand ils ont réussi à faire la ligne de chemin de fer qui relie Sainte-Élisabeth et jusqu'à Violaine et après dans la région, donc on se chauffait après avec le charbon.
Beaucoup de mineurs à Douvrin ?
Bon, il y avait quand même beaucoup de mineurs, mais Douvrin c'était plutôt agricole que mineur.
Finalement, après, avec l'arrêt des mines, il valait mieux qu'il n'y ait pas trop de mineurs. La ville a gardé son nombre d'habitants.
Oui, oui, et puis même, elle a grandi après. Hein. Donc, de petit village, c'est passé à une ville de plus de 5000 habitants. Hein. Et ça a toujours resté agricole. Maintenant, avec les nouveaux arrivants et tout ça, ça devient une petite ville bien agréable.
Donc là, on est dans les sentiers cavaliers et on vient d'aborder un grand espace, une clairière, on va dire, très agréable, ma foi.
Ben ici, on est dans le secteur de Haine, où ils ont fait un magnifique espace vert. Et là, on va rejoindre la fosse et glacée au patrimoine des monuments historiques. Et c'est le dernier chevalement qui a été construit en béton.
Votre sentiment par rapport au classement UNESCO du bassin minier ?
Oh là, c'est extraordinaire, ça fait des années qu'on en parle. Hein, on a même eu l'occasion de faire venir un ambassade, l'ambassadeur du Bélarus, et on lui avait fait montrer notre région, qui a très 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 apprécié. Et en plus, il avait 3 voix pour voter pour le classement. Donc je sais pas, hein, je sais pas moi-même si ça a été un truc, mais on a sens. On y a participé un tout petit peu et je crois que notre région, l'Artois, c'est l'une des plus belles régions du Pas-de-Calais.
Est-il possible de laisser ça comme ça à l'abandon ? C'est le seul site entier avec un chevalement en béton, le tout dernier des mines de Lens. Quand je pense aux soins qu'on avait dans le temps. Ben, c'était notre outil de travail. Hein. Ça méritait un peu de considération, non ? Eh ben non, rien. Alors quand Monsieur Villain, ferrailleur de son état, commença à cisailler les molettes du chevalet, ce fut un tollé. Alors Eugène disait, mais ce vilain ! Mais non seulement il a abandonné la mine à la ruine, alors que c'est le symbole du bassin minier, mais en plus il ose la mutiler, la vandaliser. C'est le fils de Simone qui lui donnait des nouvelles quand il passait à Béthune pour fleurir la tombe de sa mère. Alors bien que très âgée, Marie-Jeanne avait décidé de revenir à Douvrin. Elle voulait participer à la protestation de la population de Haine et de Douvrin en faveur de cette mine qui avait tant représenté pour elle. Pour elle et pour tous les autres. Le vieux Léon, Daniel, Simone, Paulette, Franck, toutes les lampistes et tous les mineurs. Et tous ceux avant elle et tous ceux après elle qui avaient été fiers de travailler ici. Par respect pour leur mémoire, ses amis qui étaient à présent morts. Alors elle avait mis sa belle popeline bleu ciel, celle que sa fille aînée lui avait offerte, celle qui habitait à Annecy à présent. Elle avait vérifié que sa mise en pli était irréprochable. Et bras dessous, avec ses 2 autres enfants, elle s'était rendue à la mairie pour faire entendre sa voix et celle de tous ceux qui n'étaient plus là et qui ne pouvaient donc parler qu'à travers elle. Malgré ses 91 ans, elle se tenait droite comme la justice. Ce fut une belle manifestation. Le maire et tous ses élus en tête de cortège, puis les responsables de la DRAC et enfin tout le village. Il y avait d'anciens mineurs que Marie-Jeanne ne connaissait pas. Quand ils entonnèrent la chanson de la lampiste, elle joignit sa voix à la leur, des larmes aux yeux, des images plein la tête. Puis elle rentra chez elle. Le fils de Simone passait, lui donnait des nouvelles de temps en temps. Ainsi, elle apprit que la fosse 6 fut classée au titre des monuments historiques. Maigre consolation, disait-elle à ma mère, mais au moins, plus personne n'avait le droit de la casser. Elle sut aussi que la mairie voulait acheter la mine. Ils avaient comme projet la restauration du site et sa transformation en musée. Un musée de la femme du mineur. Ça plaisait bien à Marie-Jeanne. Il y avait aussi un projet de restaurant, bref, des créations d'emplois. C'était séduisant. Mais hélas, la municipalité n'avait pas de nouvelles de Monsieur Villain. Ça faisait rager Marie-Jeanne. Hein. Elle savait que les journalistes de presse et les reporters de chaînes de télévision avaient fait le déplacement lors de la manifestation à Haine. Ils s'étaient fait l'écho des réunions de la municipalité avec les responsables de la culture et les élus de la communauté d'agglomération. Des ordres de travaux obligatoires à effectuer avaient été transmis aux propriétaires de la fosse. Mais comme vous le voyez, rien n'a jamais été fait. Marie-Jeanne ne verrait jamais aucun des projets se réaliser. Elle s'éteignit en 2005. Voilà. Pourtant, elle aurait adoré savoir que le bassin minier était passé patrimoine mondial de l'humanité. Alors, on peut encore rêver et avoir un projet. Souhaitons que cet endroit étonnant puisse avoir droit à une nouvelle chance. Après tout, c'est notre histoire.
Alors bonjour, je m'appelle Caroline Gradel, je travaille pour la compagnie Harmonica Tsouk et j'ai été embauchée par l'office de tourisme de Béthune pour créer une lecture spectacle à Douvrin et à Haine. Donc je me suis basée sur les documents dont on m'a parlé et à partir de là j'ai essayé de créer une espèce de saga familiale qui débuterait donc dans les fin 19e siècle avec les gardes-barrières qui seraient les arrière-grands-parents pour aller jusqu'à ma grand-mère. Qui serait morte début 2005, voilà. Et donc à travers le cavalier qui fait tout le long de Douvrin, et ben raconter des épisodes de la vie de ces gens-là.
Donc vous avez une base qui est réelle, on va dire, et après vous brodez autour jusqu'à la fin, vous décrivez, vous expliquez que la mine, cette fosse-là qui est à l'abandon, elle a été lâchement laissée en ruine par son dernier propriétaire.
Oui, tout à fait, mais je fais parler un de mes personnages, puisque c'est mon côté dumasien à tout petit niveau, de prendre des éléments réels et après de créer tout autour, je vous dis, une histoire qui pourrait être plausible. Et je prends aussi des anecdotes, évidemment, de ma famille pour améliorer un peu et amplifier la chair de l'histoire.
Pour réaliser une performance comme celle-là, on tient compte du cadre. Vous l'avez vu avant, vous avez visité?
Évidemment, je suis venue en repérage. On a repéré les endroits où on pouvait faire des interventions.
Au final, vous transposez cette pratique dans d'autres lieux après?
Alors, sur cette lecture spectacle-là, je pense que l'histoire pourrait bouger. Mais par exemple, je fais une autre lecture spectacle sur le Stade Park, sur le sport et les femmes en 36. Donc là, c'est pas possible, il faut que ce soit dans le Stade Park. Et je fais Où est mon château à la Buissière, par rapport au château de la Buissière, dont il reste qu'une seule partie, qui reste le donjon. Et c'est pareil, c'est pas transposable ailleurs que dans un endroit où il y aurait un château, en tout cas un donjon.
Je vous remercie pour votre disponibilité.
Merci à vous, au revoir.
C'est effectivement le dernier site complet et un des derniers chevalements encore debout. Donc il y a 21 chevalements sur l'ensemble du bassin minier qui sont restés debout, qui n'ont pas été démontés. Donc c'était la fosse 6, Alfred Descamps, le puits Alfred Descamps, qui était un ancien ingénieur des mines de Lens de la fin du 19e siècle. Donc pour rappeler les épisodes de cette histoire, donc une première extraction par la compagnie des mines de Douvrin et Haine à partir de 1859 et puis la difficulté malgré quatre forages successifs à des niveaux divers puisqu'on est allé jusqu'à moins 400 mètres donc on est allé quand même assez profond pour aller chercher les veines de charbon mais malheureusement il y avait tellement d'eau dans le sous-sol que c'était compliqué donc cette première compagnie qui était une toute petite compagnie avec un capital familial a fait faillite, a été racheté par la compagnie des mines de Lens, donc qui a fait des premiers bâtiments qui seront détruits eux aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et donc après ce chevalement en béton armé qui est caractéristique du deuxième âge des chevalements. C'est un chevalement qui appartient à un propriétaire privé, donc le célèbre monsieur Vilain, qui a été un peu maltraité là dans le texte. Enfin, je ne sais pas s'il est aussi vilain que ça dans la réalité, ça je l'ignore. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un site qui est un petit peu à l'abandon depuis plusieurs années, depuis l'arrêt de l'extraction et qui n'a pas trouvé encore véritablement de nouvelle vie, bien qu'il y ait une forte volonté municipale même au-delà, hein, pour une communautaire, pour racheter l'ensemble du bâtiment et en faire effectivement éventuellement un musée, un espace dédié à la mémoire minière et surtout autour de la femme et la mine. On a parlé à plusieurs reprises des lampistes et effectivement c'est dans un café, le café Machu, qui était sur le bord du Cavalier, qu'a été écrite cette chanson lampiste et qui met en scène la femme et le mineur, l'histoire de la femme mineure et l'importance de la femme dans l'histoire de la mine. Donc c'est un des projets qui est encore en cours de négociation, de faire un musée dédié aux femmes et à la mine dans cet endroit-là. Mais ça n'est pas fait. Il y a effectivement une volonté aussi des habitants de se saisir de ce projet et d'en faire une réalisation.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.